Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série importante, l'ascension du vainqueur et son triomphe total. Nous sommes arrivés à l'étude numéro 18 et le titre pour aujourd'hui sera La bataille décisive de Golgotha. Ce sera une étude un peu plus courte. Aussi, nous mettrons un peu de quelques chants à la fin. Ces chants sont évidemment pas très parfaits dans la qualité, puisque c'est quand j'avais fondé une émission sur cassette, il y a plus de 50 ans. Et on comprendra que ce n'est pas absolument parfait. Mais l'essentiel, c'est de recevoir quelque chose dans le cœur par les paroles, pour autant qu'on peut encore les entendre. Donc, notre étude, c'est la bataille décisive de Golgotha. Luther, il parle de la théologie de la croix, la théologie de la lumière. Chers amis, nous savons que la haine des pharisiens contre Christ était terrible. On peut dire que la haine des pharisiens a porté le Christ à la croix. Son exécution fut le plus grand meurtre judiciaire de l'histoire du monde. Mais que fit Dieu? Dieu changea cette abjection et diabolique rébellion contre sa personne en expiation pour le salut des rebelles. Il répondit au coup porté à sa face sacrée par le baiser de l'amour réconciliateur. Nous forgions contre lui l'extrême perversité, mais à cette même heure, il forgeait envers nous l'extrême bonté. Ainsi, au même moment, l'action honteuse de la crucifixion devenait, par la rédemption, le point tournant de l'histoire humaine et de tout le drame de l'histoire universelle. À tout point de vue, la croix s'impose comme le fondement victorieux de la rédemption. Premièrement, nous avons la sanctification de la croix pour Dieu. C'est une signification absolument importante et on peut dire que dans l'histoire du salut, la croix est le plus grand événement, on peut même dire plus grand que la résurrection. On a de la peine à croire que ça peut être possible de le formuler ainsi, mais essayons de bien comprendre. Dans l'histoire du salut, la croix est le plus grand événement, donc même plus grand que la résurrection. La croix, c'est la victoire, la résurrection, c'est le triomphe. Mais la victoire est plus importante que le triomphe, car celui-ci ne peut nécessairement découler que de celle-là. S'il faut la résurrection pour manifester publiquement la victoire, le triomphe du crucifié, il n'en demeure pas moins que la victoire était complète en elle-même. Tout est accomplit Saint Jean, chapitre 19, verset 30. La croix est donc l'évidence suprême de l'amour divin. Pour en faire la démonstration, le Seigneur Dieu de toute vie, le Seigneur de toute vie a livré à la mort. Oui, c'est vrai, il l'a livré, son bien-aimé Fils, son Fils unique. Le médiateur et l'héritier de la création, Colossiens chapitre 1, verset 16, ajoutez Hébreux chapitre 1, verset 2 et 3, et ça vaut la peine de répéter que pour faire la démonstration, Dieu de toute vie dans l'univers a livré à la mort son bien-aimé, son Fils unique, le médiateur et l'héritier de la création. Et je vous ai cité Colossiens 1, verset 16 et Hébreux chapitre 1, verset 2 et 3. Christ le Seigneur est mort sur la croix, lui pour qui les étoiles tournent dans l'éther. Hébreux chapitre 2, verset 10 à 16. Oui, vraiment, Dieu prouve son amour envers nous. Et cela en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour toi comme pour moi. Romains 5, verset 8. La croix est en même temps l'évidence suprême de la justice divine. Pour montrer sa justice, Romains 3, verset 25, le juge du monde n'a pas épargné son propre fils, Romains chapitre 8, verset 32. Dans les siècles qui précédèrent la croix, exception faite de quelques jugements individuels, Romains chapitre 1, verset 18, Dieu n'avait à aucun moment infligé au péché une entière punition, acte chapitre 17, verset 30, et à la longue, sa justice semblait pouvoir être mise en cause, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Romains chapitre 3, verset 25. Donc, seule la mort expiatoire du Rédempteur, démontre la justice irréfutable du juge suprême en ce qu'elle justifie l'attitude divine tout au long de l'histoire passée de l'humanité. Toute sa patience passée n'avait été possible qu'à cause de la croix en vue. Romains chapitre 3, verset 25. Tout pardon à venir n'est juste qu'à travers un regard rétrospectif vers la croix. Romains 3, verset 26 et 1er épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Patience passée, Romains 3, verset 25. Jugement présent, Saint Jean chapitre 12, verset 31, et grâce future. Tout cela se rencontre à la croix, Romains chapitre 5, verset 8 et 9. Donc, je vous le redis sans les citations bibliques, la patience passée, le jugement présent et la grâce future. tout se rencontre à la croix. Romains 5, versets 8 et 9. La justice de Dieu se révèle dans l'Évangile d'une manière unique, selon Romains chapitre 1, verset 17 et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9. C'est sa justice, à la fois comme attribut divin et comme don céleste émanant de lui et valable à ses yeux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La croix est encore le prix d'une nouvelle manifestation de la gloire divine. Il est dit, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et là, on a die Offenbarung, c'est-à-dire en français, Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Oui, il en a fait un peuple qui lui appartienne, un peuple zélé pour les hommes et pour les bonnes œuvres. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, et Tite, chapitre 2, verset 14. Les richesses acquises à la croix ne sont pas une augmentation de la gloire divine elle-même, mais dans l'Église, Dieu a trouvé un instrument, un organe pour révéler sa gloire. Même dans le temps présent, le rôle de l'Église déborde de la sphère terrestre. C'est maintenant que la sagesse infiniment variée de Dieu est donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 11. Je répète que même dans le temps présent, le rôle de l'Église déborde de la sphère terrestre, donc c'est maintenant déjà que la sagesse infiniment variée de Dieu est donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes. Frères et sœurs, que ton esprit prenne son essor vers Dieu. En toi, les principautés du monde céleste, vous devez apprendre quelque chose de la sagesse de votre Dieu. Deuxièmement, nous avons la sanctification de la croix pour Christ. Relativement à Dieu, par la croix. Premièrement, Christ reconnaît aussi explicitement que possible l'autorité de Dieu en ce qu'il se rendit obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Deuxièmement, Christ élève la foi à un plus haut degré de perfection en apprenant l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, versets 8 et 9. Devenant ainsi l'initiateur et le consommateur de la foi, selon Hébreux chapitre 12, verset 2. Troisièmement, Jésus-Christ réalise le plus pleinement le bon plaisir de son Père en se donnant lui-même comme une offrande et comme sacrifice de bonne odeur. Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Quatrièmement, Christ concrétise le fondement éternel de l'amour du Père pour le Fils. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Saint Jean, chapitre 10, verset 17. En ce qui concerne le Christ personnellement, la croix est, cinquièmement, le chemin qui le mène d'une position d'amour et de puissance à la position de la victoire. Lui, oui, lui qui était dans le sein du Père. Saint Jean, chapitre 1, verset 18. Et après avoir parcouru ce chemin, il s'est maintenant assis à la droite du trône de la majesté divine. Notez Philippiens, chapitre 2, verset 9, Hébreux, chapitre 2, verset 9, et chapitre 8, verset 1. C'est aussi, sixièmement, le processus d'acquisition de son Église. Il fut d'abord seul, comme le grain de blé, Saint Jean, chapitre 12, verset 24, à travers la mort, il atteint la glorification et la fécondité. Ainsi seulement obtient-il la joie qui lui était réservée, Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ainsi peut-il devenir le premier-né entre plusieurs frères, Romains, chapitre 8, verset 29, et la tête de ses membres, Éphésiens 1, verset 22. Par ce chemin, il peut être rendu parfait comme prince du salut, Hébreux, chapitre 2, verset 10, et ainsi acquérir sa plénitude, son corps qui représente l'Église, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23. En tant que personne divine, Christ n'a évidemment rien gagné par la croix. Homme glorifié dans les cieux, il n'a maintenant ni plus de divinité, ni plus de gloire qu'il en avait en sa qualité de Verbe éternel, et cela avant l'incarnation. Il pouvait prier ainsi, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, et écoutez bien la suite, avant que le monde fût. » Saint Jean, chapitre 17, verset 5. Cependant, comme rédempteur et dernier Adam, Romains 5, verset 12 à 21, et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il a atteint une nouvelle élévation, voire même un nom plus glorieux, celui qui est au-dessus de tout nom et auquel tout genou, le tien et les miens, fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Il ne faut pas avoir peur, parfois, d'avoir assez d'humilité pour se mettre à genoux dans certaines circonstances de notre vie la lutte peut être très importante. Dans ses relations avec nous, la croix est, septièmement, la plus merveilleuse expression de l'amour du Fils de Dieu. Christ a aimé l'Église, que l'Église s'appelle protestante, catholique, évangélique et j'en passe, et il s'est livré lui-même pour elle, Éphésiens 5, verset 25, et Galates chapitre 2, verset 20, de sa mort à Golgotha. Il a fait la source de la vie, répandant son amour rédempteur en réponse à nos oppositions et à nos haines. La victoire apparente de Satan devient ainsi sa défaite la plus définitive, et l'apparente défaite de Jésus-Christ devient sa plus décisive victoire. Et troisièmement, quelle est la sanctification de la croix pour nous? Quelle est la signification de la croix pour nous? Eh bien, voyez-vous, tout d'abord, nous avons l'aspect personnel. Pour l'individu, la croix a une double signification. Elle est en premier lieu le fondement de sa justification. Et mise en ordre juridique de son passé et la base de sa sanctification, c'est la règle morale de son présent. Je répète, pour l'individu que nous sommes, la croix a une double signification. Elle est en premier lieu le fondement de sa justification, mise en ordre juridique de son passé et la base de sa sanctification, règle morale de son présent. Premièrement, nous avons le fondement de la justification. Et oui, nos péchés doivent tous être déposés sur celui qui est notre garant, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 6. Il les porte pour d'autres. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, et Hébreux, chapitre 9, verset 28. Et cela afin qu'étant mort en lui au péché, il, au pluriel, vive désormais pour la justice. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. De même que la destruction de l'homme a eu pour cause un fait historiquement unique, la chute, Genèse chapitre 3, le relèvement de l'homme doit maintenant s'accomplir par le garant Jésus-Christ à travers un événement unique, le seul acte de justice de Golgotha. Romains chapitre 5 verset 18. Ce n'est pas la justice de la vie sainte de Jésus sur la terre. Non, ce n'est pas cela qui nous acquiert le salut. Mais c'est un acte de justice. C'est son obéissance jusqu'à la mort. La vraie nature du péché pour la créature et de se séparer du Créateur. Je répète, et ça vaudrait la peine de le dire autour de vous, que la vraie nature du péché pour la créature que nous sommes est de se séparer du Créateur, se séparer de lui qui est la source de toute vie. Elle va alors au-devant de la mort. Péché et propitiation devant correspondre, il faut donc nécessairement que le Rédempteur endure cette sentence de mort afin d'effectuer à travers elle la restauration de la vie. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. C'est par la mort qu'il peut rendre impuissant celui qui a la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi la mort, ce grand ennemi des hommes, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, devient l'instrument de leur salut, de notre salut. Ce qui est la conséquence et la punition inévitable du péché devient donc le moyen de leur rachat, de notre rachat. Éphésiens, chapitre 2, verset 16. La mort du Christ est la mort de la mort. Cela est comparable à l'histoire des serpents brûlants au désert. Notez Nombres, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Nombres, chapitre 21. Versets 6 à 8, et Saint Jean, chapitre 3, verset 14, et à celle de David, décapitant Goliath avec l'épée même du géant. 1 Samuel, chapitre 17, verset 51. Ça, c'est la logique du salut. Une vérité inattaquable, fermement enracinée dans le plan divin de rédemption. Avec le Christ crucifié pour centre, la théologie si méprisée du sang, hein, il y en a qui n'osent jamais en parler. Je répète, avec le Christ crucifié pour centre, la théologie si méprisée du sang, selon Hébreux chapitre 9, verset 22, demeure envers et contre tout. Cela demeure envers et contre tout le roc du salut. Il est donc vrai qu'elle est pour plusieurs une pierre d'achoppement et un rocher de chute. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 8. Qu'elle est partout un signe de contradiction. Actes, chapitre 28, verset 22, et Saint Luc, chapitre 2, verset 34. Mais pour les racheter, elle est la pierre d'angle choisie, précieuse, et le sûr fondement. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. Ajoutez Ésaïe, chapitre 28, verset 16, et le psaume, psaume 118, verset 22. Elle est donc désignée comme devant être la chute et le relèvement de plusieurs. Saint Luc chapitre 2 verset 34, aux uns, elle est une odeur de mort donnant la mort. Mais aux autres, elle est une odeur de vie donnant la vie. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 et 16. Donc pour les Juifs un scandale, pour les Grecs une folie. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Mais dans tous les cas, c'est la vérité. Romains 15 verset 8, c'est la puissance. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Et c'est la sagesse d'en haut. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Pour ceux qui sont sauvés, la croix est, deuxièmement, elle est la base de la sanctification. On y vient. Christ, le Seigneur, mourut sur la croix afin de nous sauver, oui, de te sauver, de me sauver de la croix. C'est le côté juridique et exclusif de sa mort. C'est Golgotha, pourvoyant à la libération du coupable que nous sommes. En tout cas moi. Mais en dépit de cela, le Christ y mourut afin que nous puissions y mourir avec lui. Ça, c'est le côté moral et inclusif de sa mort, l'impératif de Golgotha. Nous sommes plantés ensemble avec le crucifié et organiquement associés en conformité à sa mort. Romains chapitre 6 verset 5. Nous le suivons portant la croix. Saint Matthieu 10, verset 38. Nous sommes donc semblables comme il l'a été, semblables à des grains de blé qui ne vivent réellement qu'à travers la mort. Saint Jean, chapitre 12, verset 24 et 25. Nous avons été crucifiés avec Christ. Galates chapitre 2 verset 20. Le monde chrétien autour de nous est mort à travers le crucifié. Il est crucifié pour nous par la croix et nous le sommes pour lui. Galates chapitre 6 verset 14. Le monde qui est au-dedans de nous, et comment ne nions pas, le monde qui est au-dedans de nous est pareillement cloué avec nous sur la croix. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains, chapitre 6, versets 6 et 11. Le monde au-dessous de nous est complètement conquis par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Et cela afin que le monde qui est au-dessus de nous puisse devenir pour nous, par la croix évidemment, de la grâce et de la bénédiction. Donc, je répète, Le monde au-dessous de nous est complètement conquis par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et cela afin le monde qui est au-dessous de nous puisse devenir pour nous par la croix la grâce et la bénédiction. Donc la malédiction est enlevée selon Galates chapitre 3 verset 13. L'acte d'accusation que contenaient ces commandements et qui témoignait contre tous, cet acte d'accusation est maintenant annulé et cloué à la croix, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Le regard de Dieu ne peut s'y arrêter sans s'arrêter en même temps sur la croix. Crucifié avec le Christ, l'acte d'accusation lui aussi est mort. Donc, il est rendu impuissant. On peut presque dire Alléluia. On devrait. Et c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Galates chapitre 2, verset 19. Donc, la loi de Dieu avait suspendu la mort telle une épée menaçante au-dessus de la tête du pécheur. Galates chapitre 3, verset 10. Mais Christ l'a subi pour nous, pour toi comme pour moi. Le Christ est donc mort par la loi. Mais à cause de cela, la loi a perdu tout droit ultérieur contre lui. Le condamné à mort, échappe ainsi par l'exécution à toute autre exigence de l'autorité qui l'a jugé d'eux-mêmes. Christ est donc maintenant mort à la loi. Ce que le Christ expérimente, le croyant que nous sommes, l'expérimente en même temps. Romains chapitre 6, versets 5 à 11. Avec lui, il est mort en ce qui concerne la loi et il vit désormais dans la liberté de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Romains chapitre 7 verset 4. Essayons un peu de comprendre l'aspect collectif. C'est aussi sur le plan de l'humanité dans son ensemble que la croix introduit un ordre complètement nouveau. Intérieurement, premièrement, par l'abrogation de la loi. Extérieurement, deuxièmement, par l'admission de toutes les nations au salut. Et en général, troisièmement, par le triomphe universel du crucifié. Donc, premièrement, nous avons dit l'abrogation de la loi. La croix est l'accomplissement et par là l'abolition de tous les sacrifices lévitiques. Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14. Et de la loi lévitique en général. Hébreux 7, verset 18. Puisque les sacrifices étaient la base de la sanctificature et que celle-ci était le fondement de la loi. Hébreux 7, verset 11. Donc le Christ par la croix est donc devenue la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Et il est devenu le garant d'une meilleure alliance, selon Hébreux 7, verset 22, qui est la nouvelle alliance. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 28, dont il est le médiateur, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Hébreux, chapitre 9, verset 15 à 17. La sacrificature lévitique étant abolie avec le premier tabernacle, Hébreux 9, verset 8, et le voile du temple étant déchiré, selon Matthieu chapitre 27, verset 51, le chemin du lieu très saint, ce chemin est maintenant ouvert. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Et le peuple de Dieu forme donc un royaume de prêtres. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, et die Offenbarung, et Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Donc, la loi, en tant que tuteur pour conduire Israël jusqu'au Christ, était jusqu'à la croix, comme le signe distinctif de ce peuple séparé de tous les autres peuples de la terre. Les nations étaient sans loi. Romains 2, verset 12. Les nations étaient étrangères aux alliances de la promesse. Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Une tension existait donc entre ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Maintenant Christ, il est, lui, notre paix, ayant ôté le mur de séparation par l'accomplissement de la loi, il en fait des deux un seul homme nouveau, tout nouveau, et dans l'Église, qui est son corps, juif et non-juif, réconcilié avec Dieu, ont accès auprès de lui d'une même manière, ensemble donc, et dans un même esprit. Éphésiens, chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 18. La mort du Christ étant l'accomplissement de la loi, la promesse faite à Abraham peut maintenant se répandre, débordant le cadre de la loi mosaïque et apporter la bénédiction au-delà d'Israël à tous les peuples de la terre. Le nationalisme du temps de la préparation fait donc place à un universalisme d'accomplissement. Saint Jean, chapitre 11, verset 52. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, nous dit le Seigneur. Saint Jean, chapitre 12, verset 32. Nous avons donc maintenant le triomphe universel du crucifié. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Saint Jean, chapitre 12, verset 31. Par la croix, le mourant triomphait, die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse 5, versets 5 à 6, et à travers elle, ils dépouillaient de leur armure les principautés ennemies et anéantissant la puissance de celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux, chapitre 2, verset 14. De là, ce cri victorieux, tout est accompli. Gloire à Dieu. Saint Jean, chapitre 19, verset 30. L'expulsion de Satan justifie, on peut dire, justifie sa force sur Golgotha. Saint Jean, chapitre 12, verset 31. On peut dire l'explication de tout cela. On peut dire poursuit l'expulsion de Satan, poursuit sa réalisation graduellement. Je répète pour que ce soit bien compris. L'expulsion de Satan justifie sa force sur Golgotha, Saint Jean 12, verset 31. L'expulsion de Satan poursuit sa réalisation graduellement, Saint Matthieu 12, verset 29. Et l'expulsion de Satan jusqu'au temps marqué de son plein effet. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Eh bien, tout ceci, on peut dire, tout ceci met en relief le sens double que donnent les Écritures sainte à l'expression être élevé. Saint Jean, chapitre 3, verset 14, ajouté chapitre 12, verset 32, et Philippiens, chapitre 2, verset 9. Cela est une étroite relation qui unit en effet l'élévation sur la croix et l'élévation sur le trône des cieux. En grec, un même mot désigne les deux événements. Le couronné, c'est le crucifié. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11 et Hébreux chapitre 2, verset 9. Le prince légitime, maintenant couronné, va donc faire son entrée. C'est pour cela que l'usurpateur ancien, prince, comme vous le savez, de ce monde, doit donc être jeté dehors. La croix est le grand nom. N-O-N, nom, c'est nom. La croix est le grand nom de Dieu prononcé contre toute manifestation de péché, ou si, à la mort du Seigneur, la terre avait tremblé. Saint Matthieu, chapitre 27, versets 51 et 52. Et le soleil avait perdu son éclat. Saint Luc, chapitre 23, versets 44 et 45. De même, au jour de la destruction du monde, la terre sera ébranlée selon Agée, chapitre 2, verset 6, et Hébreux, chapitre 12, versets 26 et 27. Le soleil sera couvert de honte, Ésaïe 24, verset 23. La lune ne donnera plus son éclat. Les étoiles pâliront et le ciel comme la terre fuira devant le grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Donc, un monde nouveau émergera alors de l'ancien. Eh oui, un monde nouveau va émerger de l'ancien. Et ces éléments constitutifs ayant été changée après qu'un feu terrible dévorant les aura dissous. Et lorsque le monde, à la fin des temps, aura ainsi expérimenté la mort sans Golgotha, il expérimentera aussi, sur la base de la croix, sa résurrection par la puissance transformatrice de Dieu. C'est cette réalité qu'annonce prophétiquement la terre qui tremble et le soleil qui s'obscurcit lors de la mort du Christ à Golgotha. Avant de terminer par la prière, nous devons dire « Alors Christ, le grain de blé, à travers toutes ses expériences, le Christ est devenu, il est devenu le grain de blé que son amour rédempteur jette en terre au, on peut dire, au vendredi saint. Et donc, le Christ est devenu le grain de blé qui sort du sol au matin de Pâques et qui se met à croître vers le ciel. Le Christ est devenu le grain de blé dont la tige dorée monte au ciel au jour de l'ascension. Le Christ est devenu le grain de blé dont les épis riches de myriades de grains se penchent vers la terre à la Pentecôte et dispersent les semences dont l'Église naîtra. Saint Jean 12, verset 24. La croix sera donc, elle sera, et elle est, l'éternité en éternité. Je répète, la croix sera, et elle est d'éternité en éternité. Donc la croix, elle est absolument partout. Car l'agneau a été préconnu avant la fondation du monde. Dans le passé, c'est Gethsémané, Gabata et Golgotha. Dans le présent, c'est le Christ crucifié, le thème de base de notre propre prédication. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Dans l'avenir, le roi du royaume messianique manifesté, c'est le Sauveur qui fut d'abord humilié. Philippiens chapitre 2 verset 8 à 11. Et dans la gloire, c'est l'agneau qui est la pierre d'angle précieuse, fondement de la cité céleste. Apocalypse chapitre 21 verset 14. Au milieu du trône, c'est encore l'agneau. C'est l'agneau qui fait l'objet de l'adoration des esprits bienheureux. Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 10. Chers amis, dans l'étude numéro 19 de Demain Dieu voulant, le thème sera le triomphe de la résurrection. Chers amis, nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, terminer par la prière et je vous mettrai, si ça marche, quelques chants d'il y a plus de 50 ans. Seigneur, nous élevons nos âmes et nos cœurs à toi, implorant ta bénédiction sur cette journée que tu nous accordes encore pour travailler à notre salut. Nous te rendons grâce pour cette protection divine qui nous a préservés depuis notre naissance jusqu'à cette heure. C'est toi qui nous as donné la vie, qui nous la conserve, qui pourvoit à tous nos besoins et qui nous pardonne nos iniquités. Mais Seigneur, qui sommes-nous pour t'adresser nos adorations et nos louanges? Tu es élevé au-dessus des cieux, mais nous nous rampons dans la poussière. Tu subsistes de toute éternité, et nous ne sommes que depuis un jour. Tu es saint, et nous sommes misérables et pécheurs. Ô Dieu, ne nous rejette pas à cause de notre misère et de nos péchés, car tu nous as donné un Sauveur par ses mérites et son sacrifice. Nous sommes réconciliés avec toi. Nous voulons rendre à ce divin Sauveur l'amour et l'obéissance qui lui sont dus, qu'étant réveillés de notre sommeil spirituel et ressuscités avec lui, nous cherchions les choses qui sont en haut, son royaume éternel et sa justice. Pour nous affermir dans ses désirs, accompagne de ta bénédiction, ô notre Dieu, l'étude que nous venons de faire de ta sainte parole. Puissions-nous la recevoir avec foi et y conformer toute notre vie. Aide-nous, Seigneur, aide-nous dans notre incrédulité, exauce les prières que nous t'offrons pour nos parents et nos amis, pour notre patrie, pour les malades et les affligés, et pour les peuples que tu visites par des calamités. Nous t'invoquons au nom de ton Fils bien-aimé, auquel, comme à toi, Père céleste, et au Saint-Esprit, soit honneur, louange et gloire. Amen.